à Vienne, capitale de l'Empire des Habsbourg. Nous sommes en mars 1781, aux côtés de celui qui va devenir un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique, Mozart. Mais c'est surtout l'homme que je voudrais vous raconter. Et encore, juste au cours d'une courte période de sa vie, 3 années décisives, où ce jeune homme de 25 ans va amorcer un virage essentiel. Une évolution intérieure à la fois sociale, philosophique et affective. Ouais. Un Wolfgang qui devient Mozart, cadré dans son siècle, qu'on nommera le siècle des Lumières. Enlevons-lui d'abord sa perruque. Une fois installé définitivement à Vienne, il n'en portera plus. Il est bien trop fier de sa propre chevelure, qu'il noue avec un catogan. Et puis cette perruque, c'est l'emblème d'un siècle qui brûle déjà ses dernières illusions. Ensuite, revenons sur une autre légende. Mozart n'est pas autrichien, non. Il se dit, il se sait citoyen allemand. Son père, Léopold, ne cesse de le clamer. Nous autres, Allemands. Enlevons-lui aussi ce rire ridicule que nous a imposé le cinéma. Certes, Mozart aime rire, mais pas hystériquement et à tout propos. Ah, et tant que nous y sommes, à propos de ce prénom, Amadeus, le musicien signe souvent Amadé, et au contact de l'Italie, il signera Amadeo, l'aimé de Dieu. Voici donc Mozart qui arrive à Vienne. C'est son 4e contact avec la capitale. Oui. Oui, mais cette fois, il est libre. Il est seul. Sans son père, sans sa famille. Et il va s'installer à Vienne définitivement, sans retour à Salzbourg, sa ville natale. Pour Mozart, c'est l'heure H de sa destinée. Nous sommes le 16 mars 1781. Il est 9h du matin. Et c'est l'heure H de mon histoire. Mozart va décider de conquérir de force sa liberté d'artiste, se libérer de l'emprise du comte Colloredo, prince archevêque de Salzbourg, son employeur, son maître. Mais il ne va pas en rester là. Avec toute l'insolence de sa jeunesse, il va briser une seconde chaîne, celle qui le lie depuis l'enfance à son père Léopold. Et comme si ce n'était pas suffisant, il va assumer sa vie intime et affective. Il va se marier. Oh, certes, cela ne se déroulera pas comme dans un opéra bouffe. Il y aura des heurts, des ruses, des imbroglios. Libération totale, donc. Elle va commencer, et cela va vous surprendre, par un coup de pied magistral au postérieur de notre protagoniste. Mozart débarque à Vienne, en provenance de Munich. À l'époque, voyager n'est pas commode, vous vous en doutez. Certes, il a pris la voie fluviale du Danube pour gagner la capitale, mais il y a aussi une partie du trajet en diligence. Depuis son enfance, il sait ce que c'est que voyager en diligence. Ornière, nid de poule, roues qui se brisent, routes empierrées, chevaux qui se cabrent, versement dans le fossé. Il écrit ceci. J'ai vraiment cru ne pas pouvoir apporter mon derrière tout entier. Il était tout endolori et sans doute rouge-feu. Mozart a quitté Munich à regret. Il y a créé son opéra, Idoménée. Il y fait la noce dans un tourbillon frénétique. Oh, c'était le carnaval. Il en a profité. Une véritable explosion vitale. Il a même eu une relation avec une dame à la réputation assez douteuse. Ouais, mais désormais, finit la récréation. Son maître, le prince archevêque Colloredo, l'a rappelé à l'ordre. Le prélat est à Vienne. L'impératrice Marie-Thérèse étant décédée, Colloredo est dans la capitale pour saluer Joseph II, le nouvel empereur. Et il exige la présence de son Konzermeister, son musicien, que tout vienne lui envier. Au pied, Mozart, comme pour un chien. Telles sont les règles de l'époque. Colloredo est noble. Mozart, aussi talentueux soit-il, est son premier violon. Dans son orchestre de Salzbourg, il n'est donc qu'un simple laquais. Oui, mais de plus en plus, le jeune compositeur devient conscient de sa valeur et de la dimension de son œuvre. Imaginez, à 25 ans, il a déjà à son actif 80 œuvres de qualité croissante. À contre-cœur, le voici donc dans la Singerstrasse, pas très loin de la cathédrale. Il s'engouffre sous un vaste et sombre portail. C'est là que l'attend de pied ferme son maudit archevêque, son tyran, dans ce palais qu'on nomme la Maison Allemande. Car c'est le siège, depuis des siècles, de l'ordre des chevaliers teutoniques. Foudrage, Colloredo va se surpasser en humiliation et en séance de dressage. Oh, c'est pas la première fois que Mozart se rebiffe, qu'il demande à se libérer, qu'il veut se soustraire au carcan, mais maintenant, c'est le coup de tonnerre décisif qui se prépare. Le musicien monte dans la charmante chambre qui lui est réservée au cœur de la résidence viennoise de son maître. Dardard, il enfile sa livrée rouge, celle des valets, des musiciens et autres domestiques du prince archevêque. Dès midi, ce 16 mars, Mozart retrouve les autres musiciens de Colloredo pour le repas. Il y a là, en haut de table, les valets de chambre, puis ce sont le contrôleur, le pâtissier, les cuisiniers. Comme d'habitude, Mozart est en bout de table, juste avant les cuisiniers. Il se morfond, il sent bouillonner en lui tout son génie. Désormais, Colloredo et Mozart vont s'affronter. L'ancien monde contre les temps nouveaux. Un vrai pugilat verbal. D'un côté, le prince archevêque s'appuie sur ses privilèges. De l'autre, le musicien refuse de retourner à Salzbourg. Pour lui, la cour de Colloredo n'est, dit-il, qu'une cour de gueux. L'employeur agite alors sous le nez le contrat qui lui interdit de quitter son poste. Mozart s'en moque. Insulte réciproque. L'archevêque le traite de polisson et de débauché. Le musicien, lui, veut créer l'incident. Son seul but, voler de ses propres ailes. Demander un long congé ou, pourquoi pas, carrément démissionner. 28 avril, Colloredo intime l'ordre à Mozart de faire ses bagages et de le suivre à Salzbourg. 1er mai, le musicien prend sa décision. Il fait ses malles, oui. Oui, mais pour se mettre en quête d'un logement à Vienne. Dernière altercation, Mozart bouillonne. « Vous me menacez, vous êtes un crétin !» lance-t-il à l'autre. Réponse du maître. « Voilà la porte, la voilà. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous, alors filez !» Le sort en est jeté. Le lendemain, Mozart envoie sa lettre de démission. Il a compris. L'accomplissement de son œuvre passe par sa liberté. Le 8 juin, il se rend à la Maison Allemande, demande une audience au comte Karl Arco, maître des cuisines et chef du personnel de Colloredo. Ce qu'il veut, c'est se faire rembourser ses frais de diligence. Le comte surgit dans l'antichambre, jette le musicien à la porte et lui décoche un mémorable coup de pied au derrière que Mozart rêvera toujours de lui rendre. Orgueilleux et fier, il en gardera une farouche amertume. Mozart écrit alors à son père Léopold. « Je ne dois prendre conseil que de ma raison et de mon cœur. C'est le cœur qui anoblit l'homme. Je ne suis pas un comte, mais j'ai peut-être plus d'honneur au cœur que bien des comtes et valets ou comtes du moment qu'ils m'outragent. C'est une canaille. Léopold prend sa plume et sermonne son fils. Il ne le reconnaît plus. Il le somme de revenir sur sa décision, mais rien n'y fait. Étranglé de colère, Léopold relit la fameuse lettre. Il est loin de se douter que ces mots devancent de 3 années la virulente critique de Beaumarchais dans son mariage de Figaro. Patience, cette pièce de théâtre révolutionnaire va bientôt tomber entre les mains du jeune Mozart qui en fera un brillant opéra. Pour l'heure, voici notre héros sur le pavé de Vienne, avec ses malles et sans domicile. Mais libre et enthousiaste. Il est au pays du piano. Il exulte. Aujourd'hui, écrit-il à son père, commence mon bonheur. Il n'a jamais si bien dit, car l'amour l'attend pas bien loin, au cœur de la ville, près de sa place principale qu'on nomme le Graben. Ce que veut Mozart, c'est entamer sa deuxième libération, se soustraire à la mainmise de son père. À ce dernier, il écrit, je vous en prie, ne m'écrivez plus de pareilles lettres, car elles ne servent à rien que de m'enfiévrer. Ou encore, à moins qu'il ne surgisse quelque chose de nécessaire à dire, je ne vous écrirai plus que tous les 8 jours. Désormais, il lui faut trouver un toit, et pour cela, il a une idée. Il traîne ses bagages de la maison allemande jusqu'au Graben, laisse sur sa droite la cathédrale Saint-Étienne, passe devant la colonne de la peste qui commémore l'épidémie du siècle précédent et s'arrête devant l'église Saint-Pierre rutilante de baroque. Il a fait son choix. C'est là que loge la famille Weber. Un foyer, une adresse que Léopold ignore et qui va garantir sa tranquillité. L'endroit le plus sûr de Vienne, pense Wolfgang. Parfait. Parfait pour inaugurer son indépendance. Connu à Mannheim, 3 ans plus tôt. Il y a Cecilia Weber et son mari, copiste musical. Et surtout leurs 4 filles. Sophie, la cadette. Josepha, qui cuisine bien. Constance, dont nous allons bientôt parler. Mais aux yeux de Mozart, il n'y a qu'Aloysia, l'aînée. La belle Aloysia, 18 ans. Le monde du jeune homme a basculé. Il en est tombé fou amoureux. Coup de foudre à Mannheim. Il a rêvé de l'épouser, d'écrire ses plus belles arias pour sa voix enchanteresse. Il voudrait la rendre heureuse, faire carrière avec elle. Mais le jeune Mozart n'a pas compris que la mère Weber lui tendait un piège. Se servir de sa réputation de musicien pour promouvoir sa fille sur les scènes lyriques. En fait, elle n'a cure de l'amour du jeune homme. Et quand ce dernier, revenant de Paris, repasse par Mannheim pour organiser ses fiançailles avec Aloysia, c'est la déception totale. Elle l'ignore. Elle est glaciale. Premier amour. Premier chagrin. Mozart hurle, pleure. Madame Weber, ambitieuse, calculatrice, intéressée, a voulu se servir de lui. Ses filles, c'est son capital. Et elle, elle est vénale. À 22 ans, Mozart a connu trop peu de monde. Il est resté naïf. Et à 25 ans, l'est-il encore au moment où il frappe à la porte des Weber à Vienne? Imagine-t-il que c'est ici que les hasards de l'amour vont jouer pour lui un coup de dé des plus inattendus? Le voici donc au pied de l'immeuble où résident les Weber. Madame est désormais veuve. Sa fille Aloïsia, mariée et maman, s'est éloignée. La mère vit seule avec Josepha, Constance et Sophie, la cadette. Leur demeure porte le nom de l'œil de Dieu. Mais Mozart, lui, est aveugle. Il n'a toujours pas perçu le côté douteux de Madame Weber. D'ailleurs, il faut le dire, il est encore un peu amoureux d'Aloïsia. Cécilia Weber dispose ici d'un vaste appartement dont elle loue les quelques chambres restées libres. Retrouvailles, embrassades. Il est accueilli avec empressement. Mozart s'installe dans une vaste chambre confortable au deuxième étage. Le soleil inonde son nouveau nid. Les cloches de l'église en face vont rythmer sa nouvelle vie. Il prend Madame Weber pour une femme aimable, serviable, obligeante. Oh, il est heureux. Il a 4 présences féminines autour de lui. Elle papillonne, elle s'occupe de lui. Plus de soucis domestiques. Chez les Weber, c'est horaire fantasque, vie de dilettante, atmosphère bohème, tout ce qu'il lui faut. Il se sent libre, loin de Colorado, de plus en plus détaché de son père, en pleine euphorie. D'autant que le Graben est juste à côté. Des familles aristocratiques y ont leur demeure. C'est le rendez-vous de toutes les élégances, de toutes les séductions. Et parmi les filles qui croisent le regard des messieurs fortunés, pas mal sont des marchandes de plaisir qui échangent leur charme contre une somme coquette. On les nomme les nymphes du Graben. Le jeune Mozart se laisse-t-il séduire? On peut le penser. Et pour cacher ses sorties libertines au Graben, il ment à son père. Il lui écrit: j'ai trop d'horreur et de dégoût, de répulsion et de crainte, des maladies, avec trop de soucis de ma santé pour me compromettre avec des filles. Aussi puis-je bien jurer que je n'ai encore jamais eu affaire à aucune créature de cette sorte. À l'œil de Dieu, notre Wolfgang est donc entouré de femmes, et il aime ça. Il est entre une mégère, une arriviste, une Lolita et bien sûr Constance, celle qu'il nomme la fille entre les deux, et à qui il commence à trouver un certain charme. L'été est venu. Les deux jeunes gens sortent ensemble et se promènent au Prater, un immense parc ouvert récemment au public par l'empereur Joseph II. À Vienne, on murmure. Des médisants zélés avertissent Léopold. Son fils est en train de se compromettre. Il vivrait comme un débauché, avec une constance aux mœurs légères. Et pire, on colporte des scènes affriolantes où Wolfgang s'amuserait avec les 3 femmes. Mais dans sa tête, il pense que ce n'est pas parce qu'il loge chez les Weber qu'il épousera la fille. Il écrit ceci: si je suis épris, il n'en est pas question. Si de ma vie je n'ai songé au mariage, c'est bien à 7 heures. Et il se justifie. Il a du travail, il n'a pas la tête à ça. Il ne va pas accrocher sa vie à la première fille venue. Et puis il adore papillonner. Ne sommes-nous pas au siècle du libertinage? Pendant ce temps, dans l'ombre, Madame Weber tisse sa toile et prépare son piège. Oh, vous le savez, elle n'en est pas à son premier coup. En ce mois de juillet 1781, elle se rend compte que son locataire tombe lentement amoureux de sa fille Constance. En ville, ce Mozart commence à devenir un artiste célèbre. Il donne des leçons de musique à des femmes riches. De nobles viennois l'invitent à leur table et à se produire dans leur jardin et leur salon. À la cour, l'empereur Joseph II fait son éloge. Et surtout, le musicien a reçu commande pour un opéra au théâtre de Vienne. Ce sera le brillantissime Enlèvement au sérail. Et dans le livret de cette œuvre, Mozart a le bonheur de constater que l'héroïne se prénomme Constance. Pour lui, c'est un signe. Il jubile. Madame Weber, elle, découvre un autre signe. Dans les couloirs de son vaste appartement, n'y aurait-il pas, la nuit, des ombres qui passent d'une chambre à l'autre? Cette fois, il est temps d'agir et de ferrer le jeune libertin. Bien sûr, Ce dernier passe certaines soirées à des parties de billard et à boire des punches. Il sort jusqu'aux aurores dans les cafés de Vienne, mais à l'œil de Dieu, il marivaude de plus en plus avec Constance. Et peut-être que la mignonne ne demande que ça après tout. D'ailleurs, en cachette, elle se rend chaque jour à l'église Saint-Pierre en face pour prier Dieu de lui accorder ce Wolfgang qui devient de plus en plus proche. Soudain, Mozart fait éclater sa bombe. « Je l'aime, et elle m'aime de tout cœur », écrit-il à son père qui s'étrangle de rage. C'est alors que Cecilia Weber sort son grand jeu. À la fin août 1781, elle convoque un certain Johann Thoart, un intrigant devenu inspecteur des comptes au Théâtre National. Récemment, il a été nommé tuteur des trois filles Weber à la mort de leur père. Cecilia fait appeler Mozart. Et là, le tuteur ne va pas par quatre chemins. Pour préserver la vertu de Constance, il lui interdit désormais toute fréquentation, tout commerce avec la jeune fille, sauf si l'amoureux prend sur le champ l'engagement par écrit d'épouser mademoiselle Constance Weber dans les 3 ans. Et s'il ne tient pas sa promesse.